un simple repas pour la haute société new-yorkaise. Donc on peut se dire que 50 dollars c'est rien, parce que bon, quand on va au paradis du fruit, c'est à peu près ce qu'on paye à deux. Mais 50 dollars en 1946-48, c'est à peu près 660 dollars en 2026. Donc on voit bien la différence. Aujourd'hui, le prix d'un ticket est monté à 100 000 dollars, le plus haut, le plus cher côté 100 000 dollars. Donc on peut se rendre compte un peu du gap. On était entre 60 000 et 100 000 dollars. Et attention, même si vous avez l'argent, vous avez beau être millionnaire, il faut quand même avoir l'aval de la papesse de la mode, Anna Wintour, pour avoir le droit de l'acheter. Donc bon. Cette année, le thème c'était costume art. Le conservateur Andrew Bolton a voulu briser un peu les frontières. Le vêtement n'est plus un simple habit, mais une œuvre d'art, et c'est ce qu'on attendait, et c'est ce qu'on a aussi un peu vu sur le tapis rouge. Donc autant vous dire qu'avec le prix du billet, il y en a beaucoup qui se sont prêtés au jeu, même s'il y a beaucoup de robes qui étaient très simples et des costumes aussi. Et avant de parler de mes coups de cœur, petit clin d'œil à certaines stars françaises comme Léna Situation qui était présente pour la troisième fois sur le tapis rouge, ou encore la chanteuse Iseult. Et donc, je vais maintenant vous partager un peu mes points, enfin mes coups de cœur des tenues qui m'ont laissé un peu sans voix. D'abord, dédicace à Jafar Jackson, évidemment, costume très élégant, qui pouvait être un peu considéré comme hors thème puisque c'était assez simple, mais il s'est un peu habillé à la mode de Michael Jackson, et comme je considère ce très cher Michael comme étant une œuvre d'art ambulante, je considère qu'il est dans le thème. Ensuite, on a Chase Infinity, qui est une actrice connue notamment pour la dernière série Hulu, The Testament, robe colorée qui ressemblait beaucoup à un tableau peint sur elle, et je trouvais que c'était assez sobre, mais c'était parfait, enfin, c'était très efficace. Et enfin, Kiara et Russell, un couple iconique qui était pour moi le plus dans le thème, accordé et aux inspirations Égypte de l'Égypte antique. Je trouvais qu'ils étaient juste magnifiques ensemble. Kiara s'est un peu arboré un petit peu les codes de Nefertiti, je trouvais ça magnifique. Par contre, cette année, je voulais quand même faire le point dessus. Il y a eu un petit malaise vis-à-vis du financement, puisque cette année, c'est Jeff Bezos et sa compagne, Lauren Sanchez, qui ont été nommés président honoraire après avoir injecté des millions, on parle de 10 millions de dollars, pour éponger les coûts. Et résultat, le gala a été rebaptisé le Bezos Met par les activistes. Dehors, des manifestants ont dénoncé les conditions de travail chez Amazon. Certains ont même été jusqu'à cacher des petites bouteilles d'urine dans le musée, en référence aux pauses interdites des livreurs. Une ambiance qui a été un peu tendue et qui montre que le luxe ne peut plus ignorer la réalité sociale.
Voilà. Merci beaucoup, et on a visualisé toutes les voilà ces magnifiques robes que vous nous avez expliquées. Voilà, ça donne envie, pourquoi pas essayer d'organiser un jour un Met ici sur les Hauts de Rouen. Hein, je suis sûr que les habitantes et les habitants seraient force de proposition en termes de tenues aussi élégantes les unes que les autres. Merci beaucoup, Iman. Tiens, bah justement, avec Monsieur Tom, on va rester sur les Hauts de Rouen et parler un petit peu de ce qui s'y passe et des changements autour de la rénovation urbaine. Allez-y, Monsieur Tom.
Oui, donc jeudi dernier, on est allé balader nos micros sur le marché du Châtelet pour voir un peu l'état des démolitions qui sont en cours sur le quartier du Châtelet. Je vous laisse jouer l'audio qu'on a pris, Nico.
Merci, Monsieur Tom.
Sur les Hauts-de-Rouen, les premières démolitions ont commencé au quartier du Châtelet. L'idée lancée par le conseil municipal de Rouen nous promet plus de verdure, des logements tout neufs et surtout des services de proximité. L'idée, c'est de désenclaver le secteur afin de proposer un cadre de vie plus attractif d'ici 2031. Mais en attendant, c'est la vie de tous les résidents qui est chamboulée au quotidien. Alors jeudi dernier, on est allé balader nos micros sur le marché afin de prendre directement la température, et voici ce qu'en pensent les habitants.
Rénovation dit renouveau, en espérant que ça va redynamiser le quartier, reproposer des nouveaux services de proximité en faveur des habitants de nos quartiers.
C'est un plus pour le quartier, ça va nous améliorer l'habitation et son environnement. Et puis on va avoir de nouvelles personnes qui vont venir de l'extérieur habiter dans les nouveaux logements tout neufs.
Et malgré les sourires et les bonnes nouvelles, viendra un moment où ces travaux vont délocaliser le marché. Ce repère historique depuis plus de 40 ans, un événement redouté par les commerçants, notamment les plus anciens.
Quand ils vont déplacer les marchés, ça va être un petit peu gênant pour les commerçants du marché. Ils vont être divisés, on va se déplacer. Les habitants vont manquer de repères, parce que depuis 40 ans, le repère c'est ici. Ils auront dû nous consulter avant, parce qu'on avait des solutions à leur donner.
Alors, est-ce que le Châtelet réussira sa transformation sans laisser ses figures historiques sur le carreau ? Eh bien, la réponse d'ici quelques mois, quand les premiers étals devront plier bagage. Une chose est sûre, sur les Hauts-de-Rouen, le changement ne se fera pas sans bruit.
Merci beaucoup Tom, hein, Tom qui va un petit peu suivre hein, semaine après semaine, eh bien cette situation des Hauts-de-Rouen, les travaux, voilà, si vous passez hein, par les Hauts-de-Rouen un petit peu tous les jours comme nous, hein, et comme le cher camarade Johan aussi, eh bien on voit des changements effectivement. Oui, monsieur Naïm, vous avez quelque chose à nous dire.
Petite annonce, il y a un distributeur désormais au Châtelet.
Un distributeur de
billets de banque.
Ah oh, mais écoutez, amis riches, venez sur les Hauts-de-Rouen pour retirer votre argent.
Du coup, en fait, on n'a plus la poste de la Grand-Mare et la poste du Châtelet, je crois qu'elle est en cours de réouverture, mais en tout cas, maintenant, il y a un distributeur qui est disponible au Châtelet.
Eh ben magnifique, hein, ça fait du bien d'avoir le retour des services publics aussi, enfin même si ça en est pas, hein, mais quand même, c'est quand même assez pratique de pouvoir faire des retraits d'argent. Là où on habite ou près de chez soi, on retrouve justement lui qui retire son argent un petit peu tous les jours. C'est Monsieur Yuan qui va nous parler des activités du mois de mai au centre André Malraux ici, qui se situe rue François Couperin à la Grand-Mare. Monsieur Yuan, alors que va-t-il se passer durant ce mois de mai?
Oui, effectivement, le programme du mois de mai est sorti. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux et puis aussi directement au centre André Malraux.
Ouais.
Donc, court toujours l'exposition Art et Migration que vous pouvez toujours aller voir jusqu'au 13 mai au centre André Malraux. Et je voulais vous parler aussi de quelqu'un qu'on a reçu aussi à la radio qui refait une prestation aujourd'hui. Donc, Foum sera présent dans le cadre de l'exposition Art et Migration ce soir à 18h au centre Malraux pour les contes du baobab généreux. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il reste des places. Allez voir cette prestation de Foum. Et puis, donc juste à la fin, le 13 mai, à la fin de cette exposition Art et Migration, on enchaînera avec l'exposition des intervenants céramiques, papier textile, dessins et compagnie au centre André Malraux qui s'appellera De la plante à la couleur, puisqu'ils ont décidé cette année la thématique des plantes tinctoriales, comment faire de la couleur avec des plantes. Et donc, oui, ils sont.
Des plantes hein ?
Des plantes tinctoriales pour faire de la teinture.
Ah,
donc c'est un partenariat avec le Jardin des Plantes qui a une thématique aussi cette année sur graines de jardin qui est l'Afrique. Et voilà, on est autour de ça. Voilà. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir Foum aussi, le conte du baobab généreux. Et voilà. C'est ça que je voulais vous dire.
Eh bien, merci Foum, hein, que vous pouvez retrouver effectivement au centre André Malraux. Et puis, pour lui faire un petit peu de publicité aussi, bien évidemment, sur les plateformes d'écoute musicale, puisque Monsieur Foum est aussi musicien.
Tout à fait. Et puis, une petite dernière information, samedi 30 mai, n'oubliez pas, le centre André Malraux fait une petite fête pour les voisins, la fête des voisins, c'est une fête nationale hein, maintenant. De 10h à midi, on offre le petit déjeuner. Et c'est l'occasion aussi de venir voir un petit peu tout ce qui se passe au centre Malraux. Voilà.
Ah, bah, ça tombe bien. Puisqu'on est voisins. Donc
tout à fait.
Donc on reviendra.
N'hésitez pas à venir.
Hein, on viendra prendre le café.
On paye des croissants, je crois.
Eh bien écoutez, super. Allez, dans quelques secondes, on va s'envoler, redescendre cette belle côte de la Grand-Mare ou du Monumental pour traverser la Seine, cette belle Seine, et puis se retrouver du côté de la rue Geoffroy. Et la rue Geoffroy, c'est une petite rue juste pas loin du centre Saint-Sever. Et dans cette rue se trouve ce qu'on appelle la base, un tiers-lieu qui fête ses 1 an et que va nous narrer dans quelques secondes monsieur Naïm, hein, qui est allé à leur rencontre. Mais on retrouve ça juste après ce petit mix musical.
Vous écoutez Femme de tout.
Le pire.
Le pire.
Le pire.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
8h34, ouh là 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 là, on est en retard, mais ce n'est pas grave puisque vous savez, on n'est jamais trop en retard pour fêter les anniversaires et c'est ce que va faire la base ce 9 mai 2026 de 10h à 22h. Il y aura moult activités pour fêter le premier anniversaire de cette structure qui est un tiers-lieu, pour ne pas le cacher, qui se situe au 5 rue Geoffroy sur la rive gauche, bien évidemment, et on va retrouver moult activités puisque moult associations sont présentes en ce lieu. Mais je crois que c'est Monsieur Naïm qui va mieux nous en parler puisqu'il a rencontré des membres de cette structure.
Effectivement, Nicolas, j'ai rencontré Aya, membre de la base, mais aussi investi dans le bureau de l'association Ancienne Service Civique, qui va donc nous présenter la base sur là maintenant.
Alors la base, c'est la base d'action sociale et écologique. Donc c'est un tiers-lieu associatif qui accueille presque 40 associations tout au long de l'année. Il y en a certaines qui résident ici et qui travaillent au quotidien pour leurs actions. Et d'autres qui viennent faire des événements ponctuels de temps en temps pour militer et échanger avec les adhérents.
À l'origine du projet, les activités... À l'origine du projet, quel était le but de la base ?
On parle d'écologie, c'est-à-dire quoi ? C'est vous accompagner dans le renouvellement climatique, des choses du quotidien, vous apprenez peut-être avec des MJC, des écoles, qu'est-ce que c'est l'écologie, quels sont les risques climatiques ?
Alors nous, à la base, ça a été créé par Alternatiba. L'objectif, c'était, suite à la COP21, de réunir des personnes et des associations pour avoir plus de force sur leurs actions militantes. Et donc, c'était d'avoir un endroit, un peu refuge, qui permettait à tout le monde de se réunir et de mettre en place des actions ensemble. Donc ici, nous, on soutient par la présence du lieu, par le bar associatif et par la possibilité d'espace de réunion, de pouvoir s'exprimer sur toutes ces actions-là. Donc nous, on soutient et on les aide à mettre en place tout ça.
Quelles sont les activités et les projets au quotidien ?
Alors c'est vrai qu'il s'y passe beaucoup de choses. Au quotidien, il y a les associations qui sont résidentes qui y travaillent. Donc certaines, chacune dans leur bureau. Et le midi, il peut y avoir des temps un peu plus collectifs. Tous les mercredis soirs, on est ouvert. Le bar est ouvert et du coup, ça permet aux adhérents individuels, mais aux associations aussi parfois qui tiennent le bar, de pouvoir se réunir. Et on a des événements ponctuels, donc certaines fois le bar ou le jardin qu'on profite ici sont réservés pour faire des concerts qui permettent de réunir tout le monde autour de choses plus conviviales et de parler de leurs enjeux militantes.
D'abord tourné essentiellement sur l'écologie, les activités de la base, l'implantation à l'entrée de la rive gauche ont apporté un caractère plus social à leur action.
Depuis qu'on est installé rue Geoffroy, on a des associations plus dans le social qui s'installent avec nous, donc des associations plus féministes ou qui permettent d'accueillir des nouveaux publics. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout que sur l'écologie, mais aussi maintenant dans le social et on s'installe du coup dans le quartier avec des nouvelles notions.
Le programme de l'anniversaire.
Alors ici c'est l'anniversaire de rue Geoffroy, ça fait un an qu'on est installé ici. Nous on existe depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'on a beaucoup déménagé et là ça fait un an qu'on est dans cette belle maison avec un grand jardin et des espaces qui nous permettent d'accueillir encore plus de monde. Donc ce week-end-là, c'est un week-end très important pour nous. C'est ouvert à tous, c'est complètement gratuit, on peut adhérer sur place bien évidemment pour soutenir la base. On va commencer la journée sur notre marché local, qui est un marché qui a lieu tous les deuxièmes samedis du mois avec nos producteurs locaux. Il y aura notamment l'artisanerie qui va faire de la vente de produits artisanaux. Donc il y aura plusieurs personnes qui vont pouvoir faire ça sur place. On aura aussi des concerts, des chorales et des spectacles tout au long de la journée pour du jeune public, mais aussi pour les adultes. Et on aura de la restauration, donc le midi c'est un apéro partagé, donc tout le monde peut ramener quelque chose à manger et on partage tout ensemble. Et le soir on aura un couscous à partager aussi, qu'on va pouvoir nous-mêmes organiser ici.
Et voilà, à elle, au micro de Monsieur Naïm pour annoncer ce bel anniversaire qui va se dérouler ce samedi 9 mai du côté de la rue Geoffroy à Rouen, rive gauche, bien évidemment. Et il suffit juste de se rendre sur les réseaux sociaux ou bien sur le site internet de la base pour connaître tout le programme qui va être bien riche, bien évidemment.
Bien riche et au quotidien, ils mettent à jour leurs réseaux sociaux pour annoncer des événements, des conférences, des concerts. Donc n'hésitez pas à vous rendre comme l'a très bien dit Nicolas, sur les réseaux sociaux.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Naïm. Si vous croyez que Nietzsche est une niche, vous vous trompez, bien évidemment. Hein, ça intéresse plus que pas seulement les philosophes, mais ça intéresse aussi certainement nos auditrices et nos auditeurs à 8h40. Et c'est monsieur William que nous retrouvons pour nous parler de tout cela juste après ce magnifique jingle.
Reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDL.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons
le
plans.
Le pire reste à venir.
8h40, nouvelle chronique philosophie, eh bien, c'est monsieur William qui va vous parler d'un certain Nietzsche. Attendez, excusez-moi, je suis pas prêt. Allez-y.
Ok les amis, aujourd'hui on va parler de Friedrich Nietzsche, mais pas que, on va aussi parler de Michael Jackson. Alors c'est quoi leur rapport? Eh bien, Friedrich Nietzsche a écrit dans son essai, ses fragments un peu posthumes, c'est un ensemble de notes et de carnets personnels qu'il a rédigés durant le printemps été 88, il a écrit cette phrase « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Alors je trouve cette phrase intéressante, et ce que je comprends à travers celle-ci, c'est que pour beaucoup, l'art c'est un moyen de survivre. En fait, c'est une bouée de sauvetage qui va nous permettre de tenir bon face aux difficultés du quotidien, mais peut-être parfois au prix d'occulter nos propres souffrances. Et en réalité, derrière la pratique d'un art, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup, vont parfois chercher à masquer leurs maux plutôt qu'à les régler vraiment. Donc on est dans un mécanisme d'évitement par l'art. Donc pour exprimer ma thèse, je trouvais intéressant d'observer celui qui est considéré comme le plus grand artiste de tous les temps, si ce n'est le plus grand, Michael Jackson, le roi de la pop. Alors le film qui est sorti récemment, il marche partout, il est incroyable. Moi je vous avoue que sur certains aspects ça m'a laissé sur ma faim, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Tout simplement, ce serait intéressant d'avoir une approche pragmatique, presque scientifique, pour comprendre le mécanisme de l'évitement par l'art en le prenant comme cas typique. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'était un artiste différent? Ben parce qu'il était complet, il possédait un talent brut gigantesque, une intelligence musicale hors du commun, une voix magnifique dès son plus jeune âge, ainsi qu'une maîtrise et une justesse d'interprétation sans précédent. Ses capacités de performeur étaient hors pair, son charisme transcendant et sa méticulosité indispensable à ses réussites, sûrement un héritage de son père. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que comme le métal qu'on va forger, qui va endurer les pires traitements pour devenir plus résistant, eh bien, son talent a été poli dans des conditions rudes, des conditions difficiles, et qui a fait que ça l'a transcendé, mais malheureusement, est venu aussi des problématiques psychiques assez énormes. Et en fait, au final, son art est devenu tellement grand qu'il l'a totalement dépassé. Michael Jackson est complètement caché derrière son art, il a été englouti au point de ne plus jamais pouvoir en sortir. Voilà pourquoi je le pense. Parce que l'artiste le plus vendeur de l'histoire n'a jamais réussi à accepter sa propre image. Il n'a jamais pu faire la paix avec son vitiligo, finissant par se blanchir la peau alors même qu'il était fier de ses racines afro-américaines. Il n'a jamais surmonté sa détresse sociale, adulé par des millions voire des milliards de personnes. Il est malheureusement resté profondément seul. Les traumatismes de son enfance, liés à l'image que lui renvoyait son père et à sa pression, n'ont jamais été vraiment résolus. Il détestait tellement ce reflet qu'il a métamorphosé son propre visage par la chirurgie, lui qui était pourtant naturellement beau, s'est abîmé au fil des années. Donc aujourd'hui, l'artiste a complètement transcendé l'homme parce que, bien qu'il nous ait quitté il y a 15 ans, plus de 15 ans, il reste le musicien le plus écouté. Actuellement aujourd'hui, il est omniprésent dans nos vies, dans les playlists, les films. Beaucoup d'enfants l'écoutent alors qu'ils ne l'ont jamais connu vivant. L'artiste a atteint la postérité, mais l'homme a été englouti par son propre génie. Il n'a jamais guéri de son art. Enfin, je veux dire, son art ne l'a jamais vraiment guéri. Ça a été un sanctuaire dans un sens, mais aussi sa plus terrible prison. Donc voilà comment est-ce qu'on peut voir un mécanisme d'évitement par l'art. C'est que ce mécanisme, non seulement l'a peut-être aidé à se réfugier à certains moments, mais n'a jamais vraiment réussi à le guérir. Donc c'est quoi l'application qu'on peut en faire pour nous? C'est vrai, on n'est pas des artistes comme Michael Jackson, on ne le sera peut-être sûrement jamais. Mais peut-être que parfois on partage le même réflexe, celui d'avoir tendance à dissimuler nos blessures affectives derrière ce qu'on va appeler notre art. Que ce soit une passion, que ce soit un divertissement, ou juste un passe-temps quotidien, un petit moment plaisir. Et ces échappatoires, bien que saines, bien que nécessaires à notre équilibre, mais parfois elles peuvent prendre une mesure démesurée. Elles peuvent devenir parfois même anesthésiques. Et c'est là que la stratégie d'évitement, malheureusement, va nous voler le temps et l'énergie requis pour affronter nos vraies priorités, prendre soin de notre santé mentale,
passer du temps de qualité avec nos proches et regarder nos difficultés au lieu de simplement les cacher. Donc c'est sûr, il ne faut pas minimiser l'impact de l'art sur l'homme. L'art a une valeur inestimable, mais elle ne doit jamais devenir un masque qui nous empêche de guérir. Donc contrairement à ce que disait Nietzsche, la vérité ne tue pas. Au contraire, elle nous donne une direction. Elle nous rappelle qui nous sommes, ce qui compte réellement et ce que nous devons soigner en priorité. Alors le conseil que j'aimerais partager à tous, et je me l'applique à moi-même aussi évidemment, mais ne nous cachons pas. Ne nous laissons pas engloutir par nos propres créations et vivons avec notre vérité. Et c'est vrai que parfois elle fait mal, hein. Parfois elle peut être douloureuse. Peut-être que ça va pas dans mon couple en ce moment, peut-être qu'avec les membres de ma famille c'est compliqué, peut-être que ma santé n'est pas comme je l'aimerais. Mais en réalité, cette vérité ne nous tuera jamais. C'est elle qui justement nous permettra de nous renouveler, de guérir et de devenir meilleur chaque jour.
Super, merci beaucoup à monsieur William pour justement ces rapprochements, ces ponts que vous dressez entre Nietzsche et Michael Jackson. Voilà, c'est parlant, ça me rappelle un philosophe rouennais qui eh bien lors de ses cours à la faculté, hein, monsieur Vervich, eh bien faisait des analogies entre la philosophie et le football. Eh ouais, comme quoi, hein, il est bon de mêler la société à la philosophie et inversement pour pouvoir eh bien s'enrichir et eh bien et aussi donner des exemples très concrets et qui parlent à tout le monde et pour rendre justement accessible cette philosophie. Bravo.
Avec grand plaisir.
On vous retrouve évidemment maintenant la semaine prochaine autour d'un autre thème de la philosophie.
On en reparlera.
Exactement. Merci en tout cas de nous avoir fait revivre justement l'héritage et la vie plus que tumultueuse et torturée quelque part, mais voilà, qui est engrainée, hein, dans le sens de mettre des graines de génie un petit peu partout au cours de sa vie et surtout musicale. Et aussi au niveau de la danse.
On l'appelait quand même le roi de la pop. Et William a raison, quand il est mort, pour avoir ce souvenir-là, c'était qu'on avait l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille. Moi je me souviens, je l'avais appris, j'étais dans le bus, je voyais les gens en larmes.
Ouais.
Littéralement.
Ouais.
Parce que
tout à fait.
C'était. Voilà.
Tout à fait. Et je pense que ce qui est intéressant avec Michael Jackson, c'est de tirer des applications de sa vie, parce que on a tendance à ne le voir que derrière l'artiste musical qu'il était, à travers ses chansons. Et moi, c'est peut-être la chose qui m'a un peu déplu dans le film, c'est qu'en fait, on voit Michael Jackson surtout dans la forme, mais pas assez dans le fond. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à me dire, mais finalement, sa vie, qu'est-ce qu'on peut en apprendre ?
Eh ben, c'est une belle proposition pour aller justement visionner ce film de Michael Jackson, que vous soyez vivant encore lors de sa carrière, ou bien que vous ne l'ayez pas du tout connu, si vous êtes de cette nouvelle génération et que Michael Jackson vous évoque juste un souvenir de vos parents en train de danser dans le salon. Vous comprendrez aussi pourquoi eh bien vos parents dansaient dans le salon, puisque c'était comme Naïm l'a très bien rappelé, le roi de la pop. Merci beaucoup monsieur William, on vous retrouve très bientôt autour d'une nouvelle analogie qui nous fera découvrir le sens de la vie.
À bientôt.
Merci beaucoup. Dans quelques secondes, nous allons filer vers le sport. Oui, vous me direz, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport. Si, puisque la danse était un petit peu du sport, notamment pour monsieur Michael Jackson. Et je pense que ses entraînements quotidiens étaient dignes de grands sportifs. C'est monsieur JC qu'on va retrouver autour d'un interview qui va nous parler de rugby. Et oui, à 8h48, on s'envole vers le Rouen.
Les Valkyries.
Oui, Rouen.
Rouen Normandie Rugby.
Merci,
dire,
merci
mon
de.
Cher Nicolas.
De
vous avez raison, hein. Parce que les deux sont à peu près associés, sont logés
à la même enseigne,
dans la même maison.
Exactement. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, ça nous fait grand plaisir, de rugby féminin, hein, oui. Avec cette interview que vous avez menée avec Manon Hainaut, qui est capitaine des Valkyries, et Alexis Véry, qui n'est autre que leur coach.
Oui, et justement, on parlait de leur demi-finale, qui vont sûrement approcher le 31 mai. Bonjour à tous, bravo pour cette demi-finale. Comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Bonjour à tous, satisfaite puisque deux journées avant la fin du championnat, on est qualifié pour les demi-finales. C'est plutôt satisfaisant, c'était notre objectif, on le valide avant la fin de la saison, donc on part sur les deux derniers matchs plutôt sereine.
Oui, d'accord avec Manon, le sentiment d'avoir accompli un objectif.
qu'on s'était fixé en début de saison. Donc satisfait. Maintenant, il nous reste encore l'enjeu d'aller chercher la demi-finale à domicile sur ces deux derniers matchs. Donc c'est le dernier enjeu qui reste avant de basculer sur les matchs à élimination directe.
On revient à l'instant sur le match précédent. À quel moment vous avez compris sur le terrain que la qualification était dans la poche ?
Au coup de sifflet final, puisque c'était un match serré, donc rien n'était fait. Enfin, à la fin de la première mi-temps, on mène de deux essais. On se fait rattraper, c'est serré, rien n'est fait. Le match peut basculer encore jusqu'aux cinq dernières minutes. Donc c'est vraiment au coup de sifflet final qu'on se dit qu'on a été là chercher la victoire et que ça nous permet d'être certaines d'aller en demi-finale.
On sent que c'est une équipe très soudée cette année. Quelle est la plus grande force des Valkyries pour aller chercher cette finale ?
Je pense que cette année, et plus que les années précédentes, on a un collectif qui est large. Alors on a eu des blessés bien sûr, mais on arrive quand même, malgré les blessures, à combler et à avoir un banc qui envoie toujours une nouvelle dynamique et un souffle, une nouvelle fraîcheur sur la deuxième mi-temps, et ça c'est ce qui fait beaucoup. Avant, on avait tendance à avoir du mal à faire des changements et à tenir 80 minutes. Là vraiment, on a un gros groupe, ce qui permet aussi d'être... de faire des entraînements à 15 contre 15 avec des filles en face qui sont obligées de travailler pour avoir leur place. Donc forcément ça impulse une dynamique et ça renforce le groupe de se dire je dois me donner pour avoir ma place, mais je m'entends très bien avec celle avec qui je suis en concurrence. Ça me motive plutôt qu'autre chose.
T'as raison, on a utilisé 38 joueuses cette année. Alors ça paraît beaucoup, mais on est dans la moyenne des joueuses utilisées par les clubs de la poule. Puis au-delà de ça, il y a notre capacité à travailler fort. Je sais pas, et puis c'est pas le moment forcément de le dire, mais je sais pas si on a les meilleures joueuses, je sais pas si on a le meilleur staff d'élite 2. Par contre, je pense qu'on est un des clubs qui bossons le plus et essayons de bosser le mieux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on a des filles qui sont très investies, un staff qui est très investi aussi. Et quand c'est dur, on se rattache un petit peu à ça. Et ça nous permet d'avoir fait basculer quelques matchs en notre faveur.
La demi-finale, c'est un moment où tout bascule. Comment avez-vous préparé mentalement pour le choc ?
On n'y est pas encore en demi-finale. Ce que je disais au début, on va essayer de bien finir les deux derniers matchs et d'aller la chercher à domicile. Pour répondre à la question, je pense que la meilleure manière de les préparer, c'est de les recevoir déjà. On a notre destin, on va dire, à moitié entre nos mains, puisque La Rochelle, qui est premier du championnat, va arbitrer un peu cette fin de saison, notamment sur nos poursuivants directs. Nous, on sait que si on veut continuer à exister pour aller chercher la deuxième place, il va falloir gagner avec le bonus et espérer que La Rochelle batte nos poursuivants. Donc on se focus sur le match d'après.
Le prochain match, ça jouera ce samedi contre
Perpignan.
US Perpignan.
Ouais.
Et après samedi qui suit, je crois de mémoire.
Ça sera le dimanche, mais le week-end d'après.
Contre.
On se déplace à Brive.
À Brive. Et après, on verra la suite.
Après, on verra la suite, ouais. Après, on verra la suite.
Aussi, il y a une manifestation cet été par les Valkyries que vous organisez. Je vous laisse dévoiler.
Oui, tout à fait. Du coup, depuis maintenant un an, on propose un stage pour les enfants de 6 à 12 ans au Stade Mermoz. Donc, tout se déroule au Stade Mermoz. On propose du coup des activités sportives, donc pas forcément que du sport. On va faire des grands jeux, on va faire des chasses au trésor, on va faire aussi également des activités sportives, du foot, du rugby. On va proposer des initiations à l'athlétisme, plein de choses. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants une panoplie d'activités, tout en mettant le point vraiment sur le rugby. On mise vraiment une journée sur le rugby pour que tout le monde puisse découvrir cette activité qui nous correspond le plus. On accueille les enfants à partir de 8h et jusqu'à 18h avec 4 heures d'activités encadrées et des temps libres le midi, le matin et le soir. L'objectif, c'est vraiment que les enfants s'amusent, qu'ils sociabilisent entre eux, qu'ils repartent avec l'envie de pratiquer du sport toute l'année et en découvrant lequel peut leur correspondre le mieux.
Comment on peut s'inscrire pour cet été?
Ça s'effectue par mail, valkids.rouen@gmail.com.